de Sancier à Paris 5e. Et à bientôt à toutes et à tous.
On aimerait vous rencontrer.
Ça vous dit ? Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement.
On se voit bientôt à Paris, 93.1 en FM. Sur le bloc 9A du DAB+, et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Les politiques logicielles libres de Grenoble et de Lyon, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également en programme le label Territoire numérique libre et en fin d'émission l'interview de deux étudiants du master I2L pour ingénierie du logiciel libre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser d'autres questions. Nous sommes mardi 2 décembre, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous saluons également toutes les personnes qui nous écoutent sur la web radio Radio Cigaloun et sur les radios FM, Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie.
Bonjour et bonne émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Pour notre premier sujet, nous allons parler des territoires numériques libres, un label qui va bientôt fêter ses 10 bougies, initié et organisé par l'association Adulacte et dont l'April est membre du jury. Et pour cela, j'ai plaisir de recevoir à distance Camille Tillat, responsable marketing et communication pour l'Adulacte. Bonjour Camille.
Bonjour Étienne, bonjour à tous et à toutes.
Alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous rappeler l'objectif de ce label ou le présenter et peut-être en profiter pour rappeler également ce qu'est l'Adulacte?
Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer peut-être avec l'Adulacte. Donc, c'est une association de développeurs et utilisateurs de logiciels libres et donc qui œuvre en faveur des administrations et des collectivités territoriales. Pour vous faire un bref rappel historique, l'Adulacte, en fait, lors d'un conseil d'administration en 2014, a eu l'idée de créer un label pour les collectivités. Donc le projet a maturé et c'est en 2016 ensuite qu'il y a eu la première édition du label Territoire numérique libre qui a été en fait donc créé comme Étienne le disait, donc avec notamment l'April et d'autres structures reconnues dans le milieu du logiciel libre. Donc on a également l'association Déclic, la commune de Saint-Martin-d'Uriage, l'organisation W2 ou encore le Conseil national du logiciel libre. Et donc c'est avec toutes ces personnes que le label a pu voir le jour en fait en 2016, et dans le simple but de mettre en avant les initiatives mises en place au sein des collectivités quant à l'utilisation de logiciels libres. Voilà en quelques mots.
Parfait, c'est très clair. Ça m'évoque l'image que prenait souvent Pascal Kuczynski, l'ancien délégué général du Adulacte, qui décrivait le label, me semble, comme les villages fleuris, mais avec des arrobases pour mettre en valeur les communes, les territoires numériquement libres. Pour donner une image peut-être un peu parlante, il me semble.
Tout à fait, oui. C'est bien l'exemple qu'il reprenait à chaque fois. Ça permet d'imager ce qu'est le label Territoire Numérique Libre. Et donc, c'est vraiment un label qui est ouvert à toute collectivité territoriale française et gratuitement, bien entendu.
D'accord. Et ça m'évoque une question. Quel est l'intérêt pour les collectivités, justement, parce que bon, on imagine les collectivités pour les villes fleuries, elles ont envie de mettre en avant le fait qu'elles aient, voilà, qu'elles soient joliment, enfin voilà, qu'elles aient de jolies fleurs, pardon. voilà, pour ce qu'il en est du numérique libre, je sais qu'on a eu souvent des retours. Voilà, en tant que responsable communication de la DULACT, quel retour tu as de l'intérêt des collectivités à participer à ce label?
L'intérêt premier, enfin le label, c'est vraiment un outil de communication qui est très efficace au sein des collectivités. Il a été mis en place pour mettre un peu en lumière, si je puis dire, les initiatives libres des collectivités, et donc surtout pour les promouvoir auprès de leurs élus, mais également de leurs citoyens et des autres collectivités. Et ça, c'est le point qui est vraiment très important. Parce que dans le milieu du logiciel libre, la mutualisation des ressources, des moyens est très, très, très importante. Et donc, c'est un fait que le label Territoire Numérique Libre permet, en fait. Là, on peut se dire, telle collectivité utilise tel logiciel libre pour ce besoin métier. Nous, on a une collectivité de même taille, de même capacité, on pourrait aussi, pourquoi pas, l'utiliser. Donc, ça permet vraiment d'apporter une mutualisation des ressources, un bon usage de l'argent public, pardon, et puis toutes les autres initiatives qui sont mises en place sur les territoires. Voilà.
Raphaël. Et j'en profite pour préciser qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être déjà une collectivité extrêmement avancée dans ce processus. L'important, c'est de l'engager. Et chaque petite initiative, je mets petite entre guillemets, est très bonne et mérite d'être valorisée notamment. Et c'est notamment à ça que sert ce label. Ce n'est pas que pour les collectivités extrêmement avancées dans leur démarche, mais dès que la démarche est initiée, ce label est pertinent pour les raisons que tu as très, très clairement rappelé, il me semble. Alors, les résultats de l'édition 2025 du label ont été rendus publics la semaine dernière. Mais avant d'en parler plus en détail, il serait peut-être intéressant de noter que cette édition apportait beaucoup de nouveautés. Et on peut même dire que, alors je vais citer le communiqué de la DULACT, mais que le label a fait peau neuve. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, c'est vrai que 2025 a été un tournant dans l'avancée du label Territoire Numérique Libre, dans le sens où, comme tu le disais, Étienne, toutes les collectivités ont toujours été invitées à participer au label. Mais cette année, on a en fait mis en place une nouvelle récompense qui s'appelle le badge Territoire Numérique Libre et qui permet vraiment aux collectivités de plus petite taille ou qui a fait vraiment un tout petit pas dans le monde du libre de participer. Donc on remplit un formulaire qui est très simple à remplir, très rapide et qui permet déjà de montrer un engagement envers le logiciel libre. Donc ça, c'était la grosse nouveauté de l'année. Également, il y a eu des modifications dans l'attribution des labels. Donc, on a remplacé les niveaux qui allaient de 1 à 5 copyleft par des récompenses qui sont, si je puis dire, plus claires lorsqu'on les obtient. Donc, on a remplacé par des niveaux bronze, argent et or. Donc, on voit tout de suite, en fait, l'excellence même dans l'appellation de ces niveaux-là. Donc ça aussi, ça a été une refonte assez importante.
Je me permets juste, alors je vais t'inviter à le faire si tu le veux bien, mais tu as parlé de copyleft, alors entre personnes qui connaissent ces sujets, le terme nous paraît tout à fait usuel, mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est le copyleft en quelques mots?
Tout à fait. Alors pour faire simple, vous avez le copyright pour tout ce qui est propriétaire, des marques, etc. Donc le copyleft, en fait, ça montre l'ouverture. Voilà, tu as d'autres choses à rajouter.
Non, c'est un habile jeu de mots. Copyright, c'est la version, on va dire, du droit d'auteur dans le droit anglo-saxon. Et c'est un jeu de mots. Copyright, right, ça veut dire droit. Et left, ça veut dire gauche. Donc gauche d'auteur par rapport à droite d'auteur. Voilà, si on peut traduire cela comme ça. Merci pour cette clarification. Oui, donc voilà, donc on est passé, donc il y a les badges, on est passé de niveau 1 à 5 à un niveau comme les médailles, hein, or, enfin bronze, argent, or, et on voit bien la gradation effectivement qui paraît effectivement limpide.
Tout à fait. D'autres nouveautés, donc le site TNL a également été revu. Je pense que c'est important d'en parler puisqu'on a clairement amélioré l'accessibilité du site. Donc pour tout vous dire, anciennement, dans notre version WordPress, nous avions un site avec un niveau d'accessibilité médiocre, donc une note F via le logiciel Askatasun qui nous permet d'auditer en fait la page d'accueil du site web. Donc là, nous sommes sur un niveau A, donc c'est quand même une très belle progression. Voilà, pour permettre à tous de consulter le site. Et une très très belle nouveauté également, c'est la remise des prix qui a été organisée sur le fameux congrès des maires. Voilà, un lieu vraiment de prestige remarquable.
On va y revenir sur, parce que je trouve que c'est effectivement une importante évolution, parce qu'alors avant c'était au salon Open Source Experience, qui est un très beau salon professionnel autour du logiciel libre, mais le congrès des maires s'adresse plus directement aux collectivités, donc ça c'était vraiment une évolution, enfin bravo là du lac d'avoir réussi, du congrès des maires, donc on va continuer à parler, bravo d'avoir réussi à, parce que c'est pas simple, on imagine, d'obtenir une place à un gros, très gros salon, c'est pas du tout que centré sur le sujet du logiciel libre, donc cette entrée dans le monde des collectivités était vraiment une belle réussite. J'imagine que ça n'a pas été simple d'obtenir un temps dans ce congrès des maires, un temps pour la remise.
Oui, tout à fait. Merci Étienne de le préciser. On peut dire merci surtout à Pascal Kuczynski qui nous a mis en relation avec le maire de Montpellier, donc Michael Delafosse, qui est vice-président de l'Association des maires de France. Et c'est grâce à lui, clairement, que nous avons eu une superbe place au Congrès des maires cette année. Mais c'est vraiment un lieu remarquable et qui avait clairement... TNL avait clairement sa place là-bas, dans le sens où TNL, c'est vraiment un regroupement, la plupart du temps, de DSI. On essaie aussi d'intéresser les élus, puisqu'il y a, le but, c'est que vraiment, ça communique au sein des collectivités, donc autant du côté de la DSI que des élus.
DSI, je précise, c'est Direction des systèmes d'information.
Oui, merci. Et donc là, le fait de pouvoir célébrer la remise des prix au Congrès des maires, ça fait que les élus se sont vraiment bien intéressés donc à cet événement. Et on a eu vraiment une mixité de personnes qui était fantastique.
D'accord, donc ça c'est... j'imagine qu'il y avait des attentes par rapport au fait d'être dans le Congrès des maires et de ton point de vue, ça a été finalement validé le fait que c'était pertinent de se rendre au Congrès des maires pour le TNL.
Oui, validé, enfin même j'ai envie de dire survalidé. On a eu énormément de bons retours et également de la part des collectivités présentes nous disant que c'est pour eux c'était plus simple de se rendre sur ce type d'événement puisque ça leur permet de justifier cela auprès de leur collectivité qu'un salon dédié à l'open source. Par exemple, pour un élu, c'est pas toujours très simple de justifier avec un salon dédié aux personnes. Impliqué dans la DSI, quoi.
Et on voit la logique. Alors, on parle des collectivités. Est-ce que tu peux, alors, on va pas rentrer dans le détail des résultats qui sont disponibles sur le site du TNL, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire des résultats de cette édition 2025?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même 36 collectivités qui ont été récompensées cette année. Donc, c'est un très beau score. Les collectivités viennent s'ajouter donc au labellisé précédent. Donc, on est quand même sur 97 collectivités labellisées en France, DOM-TOM compris. Donc, c'est quand même super. Et cette année, plus précisément, donc on a eu 19 collectivités qui ont obtenu un badge. Donc la porte d'entrée à TNL, 19 labellisés de niveau bronze, 5 labellisés argent, et là si je peux me permettre de les mentionner parce que au niveau argent on commence vraiment à rentrer dans des dossiers qui sont quand même quasiment excellents. On a donc la métropole de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, la ville d'Abbeville, la ville de Clé, Saint-Joseph, donc à La Réunion, et la ville de Villejuif. Vraiment des dossiers qui étaient très très bons.
Je confirme, étant moi, voilà, je représente, je ne l'ai pas dit, mais je représente l'April pour le jury, dans le cadre du jury TNL, et effectivement, c'était tous les dossiers sont bons, en fait, par nature, parce que la démarche a été entreprise, oui. Mais c'est vrai que les 4 que tu mentionnes et les 3 que tu vas mentionner ensuite étaient effectivement des dossiers passionnants à étudier et qui donnent beaucoup d'espoir sur. D'espoir. On voit que les collectivités sont vraiment motrices dans la démocratisation du logiciel libre.
C'est exactement ça, vraiment, tous les dossiers sont très bons, les bronzes tout autant que les autres. Et après, on a donc 3 labellisés de niveau or. Donc là, c'est vraiment le niveau qui représente l'excellence. On est sur une perfection même qui est impressionnante dans ces dossiers-là. Donc on a le syndicat Morbihan Énergie, la ville de Boé, qui est une petite collectivité. Voilà, pour vous donner un exemple.
Et la ville un peu moins de 6000 habitants, ouais, pour avoir... Et la ville des Chirols, voilà, qui est pour les personnes qui suivent le logiciel libre, effectivement, c'est une ville, on va dire, vitrine, je sais pas si le terme est très bon, mais reconnue pour son enfin, voilà, pour vraiment les efforts faits pour, vis-à-vis du logiciel libre et la cohérence de leur stratégie, dans cette direction. Et Chirols, voilà, qui est dans la banlieue, dans la métropole grenobloise, plus précisément. Alors, je vois le temps file, on va peut-être mentionner, je vais peut-être te laisser mentionner les mentions spéciales aussi qui ont été décernées.
Oui, bien sûr. Et donc, en parlant des Chirols, justement, de par le fait de, ils sont très actifs au niveau logiciel libre et surtout au niveau de la promotion. Donc, ils ont reçu la mention spéciale promotion, communication et sensibilisation au logiciel libre. La ville de Colomiers a reçu la mention spéciale sobriété numérique et plus précisément sur la durabilité des équipements. Et le parc national des Écrins, qui a eu en fait la meilleure première candidature et une double récompense avec la mention spéciale mutualisation, voilà, de par leur dossier assez exceptionnel, et qui a été niveau bronze. Voilà.
Super. Et je vais mentionner aussi Villejuif et Les Abîmes, je me parais que j'étais au jury, qui avait deux autres excellentes candidatures sur l'aspect sobriété, mais qui avaient déjà reçu cette récompense. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait aussi valoriser d'autres collectivités qui avaient œuvre avec engagement sur le sujet de la durabilité, de la sobriété. Merci beaucoup Camille, je vais quand même te laisser le mot de la fin. Je crois qu'il y a des actualités, une actualité à Dulacte que tu souhaitais évoquer.
Eh ben, avec plaisir, merci Etienne. L'Adulacte organisera son congrès donc annuel comme tous les deux ans, donc à la mi-juin à Montpellier, et donc c'est ouvert à tous nos adhérents. Donc voilà.
Voilà. Et je redis, voilà, pour les collectivités, donc congrès de l'Adulacte, si vous êtes membre de l'Adulacte ou si vous ne l'êtes pas encore, je pense que ça peut être intéressant pour vous de l'envisager. Sur invitation et de candidater. Regardez, renseignez-vous. Effectivement, la porte d'entrée avec le badge est devenue beaucoup plus simple. Il y a des formulaires aussi en ligne. Voilà, le label a beaucoup évolué. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas renseigné, ça vaut le coup de candidater pour avoir un retour aussi et puis pour mettre en avant ce que vous faites. C'est tous les ans. Et les candidatures sont début de l'été, me semble-t-il. C'est en septembre, pardon, que les candidatures sont ouvertes.
Alors, normalement, ouais, c'était en septembre de cette année, mais c'est vrai qu'habituellement, c'était début d'été, donc ce sera à rediscuter avec le comité d'orientation.
D'accord. Bon, bah, soyez, voilà, gardez les oreilles ouvertes et n'hésitez pas à candidater. Merci beaucoup, Camille, d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous et je te souhaite une très bonne suite de journée.
Merci à toi, Etienne, merci à tous. Au revoir.
Au revoir. Et nous allons présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, on continuera à parler de collectivité puisque nous entendrons l'interview des élus numériques de Grenoble et de Lyon. Avant cela, nous allons écouter The Passenger par Wizards of Loneliness. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Mistake is written in the way.
Nous venons d'écouter un extrait de The Passenger par Wizards of Loneliness, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous,
libre à vous.
L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet principal. Comme je vous le disais en introduction, pour notre sujet principal, nous allons parler des politiques logicielles libres de Grenoble et de Lyon. Un sujet préenregistré le 25 novembre 2025, il y a donc une semaine si vous nous écoutez en direct. Pierre Mériot, Bertrand Mas, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur Libre à vous pour échanger sur les politiques logicielles libres de Grenoble et de Lyon, dont vous êtes respectivement élus au numérique. Alors pour commencer, alors une question d'usage, mais peut-être un peu décalée par rapport à d'habitude, parce qu'avant de vous présenter personnellement, j'aimerais bien que vous présentiez les collectivités que vous représentez. Alors Lyon et Grenoble sont des grandes villes, mais c'est peut-être intéressant de rappeler peut-être que quelques éléments factuels pour qu'on ait en tête de quoi on parle, et puis préciser à l'occasion peut-être le mandat que vous occupez respectivement dans ces collectivités. Bertrand, je vous propose de commencer.
Oui, donc très rapidement, moi je suis à Lyon, qui est une ville d'environ 520 000 habitants, qui nous classe troisième ville française, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je pourrais préciser juste ce qui concerne la collectivité, l'administration ville de Lyon, avec un grand chiffre, c'est qu'on a environ 7 000 ordinateurs pour l'usage des agents de la ville, à environ 5 000 postes concernés par de la bureautique de façon régulière, puisque c'est pas mal de ça dont je vais parler aujourd'hui.
Parfait, merci beaucoup. Pierre ?
Oui, bonjour, Pierre Mériot, je suis donc adjoint au maire de Grenoble et en charge du personnel, de l'immobilier municipal, de la stratégie numérique et de la présidence de la FAO. Alors Grenoble, c'est plus petit que Lyon, bien sûr. Nous sommes 165 000 Grenoblois actuellement, insérés dans une métropole qui, elle, comprend 450 000 habitants. Et au niveau des effectifs de la collectivité, on a 3800 agents à la ville de Grenoble et 1200 au CCAS. Et on a un parc d'ordinateurs qui doit atteindre les 2500 PC actuellement entre ville et CCAS.
D'accord, merci pour ces précisions. Alors vous avez dit effectivement et que vous faites partie d'une plus grande communauté d'agglomération. C'est également le cas de Lyon qui fait partie, voilà, il y a le Grand Lyon, et je pense que Bertrand pourra revenir sur ce point. Je vais rappeler parce que je l'ai pas fait en introduction, mais Lyon et Grenoble, vous êtes déjà tous les deux intervenus dans le cadre de Libre à vous. Alors Grenoble, c'était Madame Compara qui avait présenté la collectivité en 2019, c'est l'émission 27. Et Lyon était intervenu avec le Grand Lyon dans l'émission 162, déjà pour parler en 2022, pour parler de ces politiques logicielles libres. Mais là, nous sommes en 2025. En plus, il y a eu des annonces récemment de deux collectivités. Donc c'est pour ça qu'on trouvait intéressant de vous proposer d'intervenir à nouveau. Je vous propose à présent peut-être, parce que c'est toujours bon de savoir qui parle, voilà, de nous donner un petit peu plus d'informations sur personnel, peut-être vos parcours, votre rapport à l'informatique, au logiciel libre. Qui se lance ? Eh ben, reprenons le même ordre, Bertrand, je vous propose de commencer.
Oui, moi initialement je viens pas du tout du monde du numérique, puisque je suis ingénieur dans le bâtiment dans lequel j'ai travaillé plusieurs années, et donc je me suis penché sur les problématiques numériques vraiment lorsque je suis devenu élu et donc adjoint au maire en charge de la politique du numérique. Peut-être en quelques mots la façon dont j'ai abordé la question, je pense que je suis rentré par la porte de la sobriété numérique. Le début de mandat, c'était l'époque où le Chief Project avait publié son rapport « Déployer la sobriété numérique ». Et donc ensuite, j'ai tiré la ficelle en suivant les travaux de gens comme Gauthier Roussy, Aurore Stéphan, Cécile Didier sur les data centers, etc. J'ai aussi pas mal tiré la ficelle de la souveraineté numérique, en suivant des personnes comme Ophélie Coelho, Tariq Sim, etc. Donc toutes les problématiques du droit extraterritorial américain, par exemple. Et puis sur la question du logiciel libre en particulier, alors j'ai été bien aiguillé par un autre élu de la ville de Lyon qui s'appelle Vincent Mabillot, qui est élu dans le 8e arrondissement de Lyon et qui est très engagé sur les questions logiciel libre. Voilà, et puis donc on s'est intéressé aussi à d'autres questions, évidemment, d'inclusion numérique, d'accessibilité, et qui nous a amené en début de mandat à élaborer un peu une feuille de route sur tous ces sujets-là, qu'on a appelé notre stratégie numérique, qui était aussi co-construite avec un bon nombre d'agents de la ville de Lyon, avec évidemment des grandes lignes directrices impulsées par le politique. Et après, peut-être pour préciser quand même sur le mandat d'adjoint au numérique, en quoi ça peut consister au quotidien, bien, ça va être orienter les choix matériels, donc par exemple la volonté de se tourner vers plus de matériel reconditionné ou la façon dont on se sépare de notre matériel en fin de vie. C'est évidemment orienter les choix logiciels, donc on est là pour parler de logiciels libres notamment, veiller ensuite à ce que on respecte un certain nombre de cahiers des charges sur l'accessibilité numérique, c'est évidemment aussi prioriser au quotidien les projets informatiques, puisque il y en a constamment beaucoup dans une grosse collectivité, et avec quelques embouteillages, donc voilà, dans les très grandes lignes.
Merci, c'est toujours intéressant d'avoir ces perspectives et je trouve intéressant que vous fassiez le lien avec ces questions d'inclusivité, de numérique plus durable, parce que pour nous, les liens sont immenses avec le logiciel libre et c'est pour avancer de manière cohérente, il faut avancer sur ces chantiers en réfléchissant de manière transversale et en incluant le logiciel libre comme un des éléments de réponse, c'est pas le seul, mais un des éléments de réponse nécessaires pour une réponse, on va dire, cohérente à nouveau. Et c'est, je trouve toujours intéressant aussi de se dire que le logiciel libre n'est pas qu'un problème d'informaticien et d'informaticienne. Moi-même, je ne suis pas du tout informaticien, mais ça nous concerne presque d'autant plus puisqu'on a besoin de pouvoir faire confiance aux outils qu'on utilise et le logiciel libre est un levier de cette confiance. Pierre, qu'en est-il pour vous ?
Alors, comme Bertrand, je ne suis pas du tout un informaticien d'origine. Je suis inspecteur du travail de profession. Mon rapport à l'informatique, il l'était en tant qu'usager, soit professionnel et personnel. Et en tant qu'usager à titre professionnel, effectivement, j'avais eu à subir de nombreux déboires, comme beaucoup d'agents ou de salariés, qui étaient confrontés au choix par leur employeur de logiciels privatisés, propriétaires, confectionnés par des grands groupes, qui répondaient absolument pas aux besoins qu'on avait en tant que professionnel. Donc, en tant qu'inspecteur du travail, je me suis investi avec des collègues dans un groupe de travail qui a essayé de convaincre notre organisation, le ministère du Travail, dans les années, ça remonte aux années 90 par là, de la nécessité impérative de nous doter de logiciels correspondant à nos besoins. Et on a beaucoup travaillé, on a produit un cahier des charges, on a beaucoup discuté avec des experts du ministère, avec des SS2I, etc. Et au final, le ministère a fait un choix qui était orthogonal par rapport à ce qu'on conseillait, et on s'est encore retrouvé avec des logiciels vendus sur étagère, entre guillemets, et très mal adaptés par des grosses boîtes de l'informatique qui arrivent comme ça à générer des profits sans doute conséquents, mais du coup, quand on est utilisateur de ce genre de logiciel, on souffre beaucoup après. Ça, c'est mon rapport à l'informatique qui m'a amené à être en fait sensibilisé par ce biais à la logique des logiciels libres qui, très souvent, sont beaucoup plus conçus par des passionnés et en écoutant beaucoup plus les besoins des utilisateurs. Voilà. Après, en tant qu'élu, il se trouve que je suis élu depuis 2014 à Grenoble. Depuis 2020, ma délégation était concentrée sur la question du personnel et du dialogue social. Et puis en 2023, suite à une petite remodelage de notre exécutif, j'ai hérité en plus donc de la stratégie numérique et de l'immobilier municipal. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû vraiment me mettre dedans pour essayer de rattraper le temps perdu aussi, puisque il y avait quand même des choses qu'il fallait faire en urgence sur cette délégation qui avait été un petit peu délaissée sans doute. Et donc j'ai saisi le sujet à travers la nécessité pour notre collectivité, comme pour toutes les grandes collectivités de France et de Navarre, de produire une délibération qui répondait à la loi REN, aux objectifs de la loi REN de 2021, je crois.
Réduction de l'empreinte environnementale du numérique, voilà, REN.
C'est ça, tout à fait. Qui est une des rares lois intelligente sortie dans cette législature. Je dis ça, vous savez qu'on n'est pas du tout proche du gouvernement, ni actuel, ni en 2021. Et néanmoins, je dois reconnaître que cette loi est intelligente, sans doute parce qu'elle a été faite dans un esprit assez transpartisan. Et pour affronter la question de l'empreinte du numérique qui est, comme chacun le sait, croissante, et qui prend des proportions très inquiétantes avec le développement de l'intelligence artificielle d'ailleurs, les grandes collectivités devaient produire une stratégie délibéré, assumé pour faire face à cette question qui est une question importante. Du coup, on devait la produire avant le 1er janvier 2025. Et du coup, je me suis dit, pour saisir la question du numérique à Grenoble, qui avait déjà été abordée effectivement dans le cadre d'une délégation précédente par Laurence Compara, que vous avez cité, qui avait lancé une politique sur Grenoble effectivement en la matière, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour refonder en fait la politique du numérique à Grenoble. Donc j'ai pas mal travaillé avec le renfort de quelques collègues intéressés et des échanges avec des associations locales qui travaillent sur la question, notamment la Turbine, qui est une SCOP, sur la question du logiciel libre et de façon plus générale de comment développer une stratégie numérique sobre et responsable, on va dire. Donc, j'ai fait adopter une délibération en septembre 2024 avec un plan d'action complet derrière, comportant une centaine d'actions bien identifiées, avec 6 axes qu'on pourra développer si besoin, mais l'un des axes est effectivement la question de la souveraineté et de l'indépendance et donc du recours pour ça au logiciel libre de façon préférentielle. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense qu'avec vos deux présentations respectives, vous avez vraiment dressé un tableau intéressant et qui montre l'ampleur des enjeux, la diversité des enjeux. Et je pense que ça va effectivement, il y a beaucoup de sujets, on n'aura pas le temps de tous les aborder, mais on va essayer d'en creuser certains. Et on va parler maintenant de souveraineté numérique, parce que je disais qu'il y avait des actualités vous concernant. Et Lyon a publié en juin 2025, enfin du moins Lyon a annoncé renforcer sa souveraineté numérique. Alors je vais citer le communiqué sur le site de la ville. Pour ne plus être dépendante des solutions logicielles états-uniennes et acquérir une véritable souveraineté numérique, la ville de Lyon s'est engagée dans une transformation majeure de ses outils numériques. Alors cela s'est fait autour de, donc fin de la citation, cela s'est fait autour de deux projets, la création d'une suite collaborative libre et interopérable et le déploiement progressif de logiciels bureautiques libres. Et on pourra revenir ensuite sur ces deux projets. Mais déjà, j'aimerais bien peut-être que Bertrand, vous nous partagiez votre compréhension de la notion de souveraineté numérique. C'est vrai que c'est une notion qu'on entend souvent, qui semble grandement variée en fonction de qui parle, de quoi on parle. Et je trouve toujours intéressant aussi peut-être d'avoir cette vision de la part d'une collectivité, d'une grande collectivité, puisqu'on parle de Lyon, qui est quand même une commune, donc je crois, d'un peu plus d'un demi-million d'habitants et d'habitantes, et en plus dans le cadre d'une plus grande agglomération. Qu'est-ce qui a motivé cette annonce et qu'est-ce que pour vous la souveraineté numérique, Bertrand ?
Oui, effectivement, le terme il peut être compris de différentes façons, qui ne s'excluent pas les unes des autres d'ailleurs, mais moi, ça m'évoque plusieurs choses. D'une part, le fait de ne pas être client captif de tel ou tel logiciel ou de tel et tel éditeur. C'est vrai que certains outils propriétaires sont conçus pour qu'il soit très compliqué de s'en extraire. Et nous, en l'occurrence, on s'est attaqué au sujet Microsoft, qui, avec ses solutions comme Microsoft 365, enferme de plus en plus leurs clients avec des solutions de plus en plus intégrées, etc., qui font qu'ensuite, les clients que nous sommes sont... par exemple, à la merci des hausses de prix soudaines et parfois déraisonnables. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, ça peut être l'aspect qui consiste à privilégier une économie locale, du moins nationale à minima, mais c'est vrai qu'on dans les solutions qu'on développe pour s'extraire de la bureautique Microsoft, on a eu essentiellement recours à des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à hauteur de 50% des dépenses, et je dirais 100% des dépenses sur le territoire national, pour des entreprises nationales. Après, il y a évidemment aussi l'aspect souveraineté des données. Je dirais que le schéma le pire, ce serait les solutions cloud qui sont hébergées chez un acteur états-unien, par exemple, sur du logiciel propriétaire dont on ne maîtrise pas toutes les fonctionnalités, tous les aspects, les éventuels détournements qui peuvent être faits de notre donnée. Le modèle inverse, ce serait, je dirais, la solution sur votre ordinateur, donc pas sur des serveurs du temps, d'un éditeur français, avec des logiciels libres, etc. Donc, après, c'est vrai qu'il y a aussi différents degrés de souveraineté. À la ville de Lyon, on ne revendique pas d'être parfaitement souverain sur nos outils informatiques. L'idée, c'est plutôt d'être sur une trajectoire, je dirais. Voilà, mais en tout cas, sur ce dernier volet, je dirais souveraineté au sens de maîtrise de nos données, qui ne soit pas soumise à une législation étrangère. Voilà, essentiellement.
Très bien. Et ça m'évoque, alors la Cour des comptes a récemment publié un rapport alors, qui est plus tourné vers les administrations centrales, mais qui est très intéressant parce qu'il évoque beaucoup le logiciel libre, mais qui rejoint en fait, qui pose une définition qui rejoint vraiment la vôtre, c'est-à-dire la maîtrise effectivement de la donnée, de la dépendance à l'éducation étrangère, etc. Merci beaucoup pour cette définition. Pierre, est-ce que vous voulez compléter, apporter votre vision du sujet ?
La vision, elle est conjointe à celle que vient d'exprimer Bertrand, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des efforts de plus en plus importants des géants du numérique, de ce qu'on peut appeler les GAFAM, pour arriver à capter le maximum de ressources. Et pour ça, ils utilisent des arguments technologiques. On vient d'avoir la démonstration éclatante avec l'obsolescence programmée de Windows 10. Et donc, et le passage obligé, quand on est encore sous Windows, ce qui est là, c'est notre cas pour une bonne partie de notre parc à Grenoble, puisque si on a réussi à basculer en système d'exploitation libre en Linux, les 1600 PC qu'on a mis en dotation dans les écoles, dans les bibliothèques et dans les maisons des habitants, qui fonctionnent entièrement en logiciel libre, c'est pas encore le cas, hélas, pour nos PC des services, qui sont services administratifs de la ville, où on a un système un peu mixte, où on a basculé en bureautique libre, avec LibreOffice, mais on n'a pas encore fait le pas de basculer en système d'exploitation libre. Parce que ça exige des investissements en temps, et essentiellement en temps d'abord, de formation, de développement, de conviction aussi, parce que c'est un travail, hein, de conviction. Et là, on a un frein interne qu'il faut ne pas cacher, qui est que on a un système de mutualisation de notre système de notre service informatique et numérique avec la métropole de Grenoble. Et il se trouve que la métropole de Grenoble ne porte pas tout à fait les mêmes orientations fortes que nous en matière de choix vers du logiciel libre. Du coup, ça rend les choses très compliquées puisque ce service commun étant géré de façon commune et piloté beaucoup par la métropole qui l'héberge, on a des difficultés à faire entendre la nécessité de faire des choix décisifs en la matière. Donc, c'est une question qui se reposera au prochain mandat, très certainement. Mais oui, la question de la souveraineté numérique à travers l'utilisation préférentielle de logiciels libres devient capitale maintenant, je pense, pour la sphère publique en général, mais pour les collectivités tout particulièrement, parce que, d'une part, il y a la question de la maîtrise de nos données qui devient cruciale, mais aussi des coûts, puisque chacun sait que quand on regarde les coûts d'utilisation croissants des logiciels privés, comme le disait Bertrand, avec un système de fermeture successive de leurs approches qui nous rend définitivement prisonniers, en fait, c'est ça leur démarche, versus le monde du libre qui, au contraire, offre des opportunités de faire d'autres choix et de les consolider petit à petit en dialogue avec un monde qui est beaucoup basé sur la coopération entre des acteurs de niveaux différents. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de sortir d'une logique où, sous couvert de celui qui paie commande, en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. C'est celui qui est obligé de payer, qui est obligé de passer sous les fourches codines de fabricants de logiciels qui sont, comme je le disais, en tout cas comme moi je l'ai vécu très fortement dans ma vie professionnelle, subissent en réalité des choix qui sont pris très très loin de chez nous et qui ne respectent pas vraiment les besoins des habitants. En fait, quand on a un service public local, on est d'abord centré sur les besoins des habitants, ce qui est normal. Voilà, donc ça c'est un motif essentiel pour moi de recourir de façon préférentielle au logiciel libre.
Eh ben écoutez, ça me paraît très clair. J'aime bien ce que vous dites qui paie, parce que c'est vrai que finalement que le logiciel libre, c'est qui paie contribue, et notamment quand on voit l'intérêt pour la puissance publique d'investir, de payer pour que justement renforcer les logiciels libres qui vont pouvoir servir à d'autres administrations, d'autres collectivités qui ne vont pas les forcément les mêmes moyens, et puis bien sûr à l'ensemble des usagers et des usagères. Moi j'aimais bien beaucoup le mot aussi de Bertrand qui est la trajectoire, et je pense que c'est important d'avoir la lucidité là, voilà, que vous avez évoqué notamment sur les systèmes d'exploitation. C'est compliqué de migrer dessus, mais il faut déjà avoir conscience de cette difficulté, la nommer, la réfléchir, et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir et mener une trajectoire, prendre une direction qui soit pertinente. Et vous avez évoqué les postes de travail. Alors nous, à l'April, on est convaincus de la nécessité, enfin de l'importance d'engager une transition, parce que c'est un terme qui est assez à la mode, mais sur les postes de travail, parce que c'est l'outil principal de beaucoup de fonctionnaires notamment. Et je pense que ça va rejoindre justement les deux projets, et j'imagine la motivation des deux projets qui ont été annoncés par Lyon dans le cadre de son communiqué de juin. Et donc je rappelle la création d'une suite collaborative libre et interopérable et le déploiement progressif de logiciels bureautiques libres. Alors on voit que les deux projets a priori se répondent. Est-ce que Bertrand Masse, donc vous êtes élu à Lyon, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le pourquoi, enfin voilà, qu'est-ce qui a conduit à choisir ces deux projets, à les mettre en avant, peut-être voilà un état des lieux de vos situations actuelles, puisque effectivement Pierre l'a partagé pour Grenoble, ça peut être intéressant aussi de voir où Lyon en est au moment où vous vous engagez ces projets-là, mais je vous laisse la parole.
Oui, eh bien, en fait, ce qui nous a amené à ce choix-là, c'est ce que, d'une certaine façon, vous venez de dire, c'est-à-dire que nous voulions nous engager pour plus de souveraineté numérique et plus de logiciels libres, et il me semblait évident que la première étape à franchir, c'était celle de la bureautique et du poste de travail, puisque c'est l'outil que tous les agents vont ouvrir à peine arrivés le matin au travail, l'outil certainement le plus utilisé, l'outil par lequel transite une quantité très importante de données, potentiellement sensibles, etc. Donc c'est un petit peu le nez au milieu de la figure, quoi. Donc ça me semblait évident de commencer par ça, même si c'est peut-être et de ce fait-là, c'est peut-être aussi la brique la plus compliqué à engager, quoique, mais voilà, donc c'est vraiment ce qui nous a mené à engager ce travail-là. Je veux dire que c'est un travail qu'on fait en collaboration avec la métropole de Lyon et le CITIV, qui est un syndicat intercommunal qui fournit des solutions informatiques à un certain nombre de villes de la métropole, pas que de la métropole d'ailleurs, mais en tout cas de la région lyonnaise.
Je me permets de dire, parce qu'effectivement le CITIV est connu pour avoir une vraie action sur le logiciel libre. Ils ont notamment eu le label territoire numérique libre, je crois niveau 4 voire 5, j'ai plus en tête exactement leur niveau, mais voilà, vous mentionnez le CITIV et on va les saluer pour leur travail sur le logiciel libre.
Tout à fait, et c'est d'ailleurs même qui nous a permis de déclencher nos projets, c'est plutôt un appel du pied du CITIV, hein, qui comptait répondre à un appel à projet de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui nous a permis de bénéficier de 2 millions d'euros de subventions en début de projet, ce qui nous a évidemment donné un gros coup de pouce. Alors du coup, en quoi ça consiste ? On a créé effectivement une suite collaborative, l'idée c'était un petit peu de créer un équivalent plus ou moins de Microsoft Teams, puisque d'ailleurs je ne l'ai pas formulé comme ça aussi, mais notre ambition c'était de ne pas aller vers Microsoft 365, vous voyez, de ne pas franchir cette marche supplémentaire, je dirais, dans la dépendance aux outils Microsoft, qui vont plus loin dans la non-souveraineté, hein, du fait que ce soit des modèles cloud, qui coûtent beaucoup plus cher que les solutions qu'on connaissait précédemment, etc. etc. Et donc du coup, cette suite collaborative, elle contient quoi ? Elle contient un Nextcloud, qui est un outil qui permet de partager des fichiers entre agents de la collectivité. Nextcloud qui est associé à OmniOffice, donc un outil plutôt de bureautique, avec du traitement de texte, du tableur, des présentations, etc. Donc Nextcloud plus OmniOffice permet de faire des documents sur lesquels on peut écrire à plusieurs mains, si je puis dire. Un outil également de vidéo, donc qui est basé sur le logiciel libre Jitsi. Et donc, et là, on est en train de mettre en place un outil aussi de discussion instantanée, donc qui sera basé sur Watcha, lui-même basé, je crois, sur Matrix. Voilà, bon, je ne suis pas moi-même un grand spécialisé logiciel et des briques logiciels libres, mais ça parlera aux connaisseurs. Et donc le tout, je dirais, packagé un petit peu dans un, voilà, pour que ce soit une connexion unique, et ce qui permet de partager facilement des documents entre agents de la collectivité, entre agents de nos trois collectivités en réalité. Voilà, donc ça c'est l'aspect suite collaboratif qu'on a mis à disposition déjà depuis, je dirais, deux ans aux agents de la ville. Et en parallèle, il y a aussi l'idée de remplacer les outils Microsoft sur le poste de travail, donc vraiment le Word, Excel, PowerPoint qui étaient installés sur le poste de travail, de les remplacer par les outils en LibreOffice. Ça, c'est notre première étape. Après, on passera aussi au mail, remplacer Microsoft Outlook. En l'occurrence, le choix a été fait d'aller vers Vimbra. Et puis, une troisième étape, mais là, qui est plus lointaine et on est encore en train d'y travailler, qui sera de remplacer Skype, qui est notre outil de téléphonie. Et donc, on est à la recherche de solutions de téléphonie libre. Voilà, et donc là, on est vraiment... Alors, la suite collaborative, elle a été proposée aux agents depuis 2 ans, comme je disais. C'était un outil en plus, hein, en fait, au début, puisque c'était... Ça ne remplaçait rien, ça venait en complément, ce qui permettait aux agents de se familiariser déjà avec les outils en LibreOffice. Puis là, on est dans le cours de remplacement de Microsoft Office sur les postes de travail, à peu près la moitié des agents qui ont migré. Que dire sur le choix des logiciels en tant que tel, en LibreOffice, ça a vraiment été guidé par la grande ressemblance en fait avec les outils Microsoft et la compatibilité avec les formats Microsoft qui permettait que le changement soit pratiquement indolore, même si j'ai bien conscience que c'est peut-être pas le modèle le plus puriste de logiciel libre, hein, au sens où c'est pas vraiment une communauté qui est derrière, mais bien une société privée. Mais voilà, en tout cas, c'est déjà une première étape qui permet de s'éloigner des outils Microsoft. Je précise aussi qu'on a pris le temps de le faire, vraiment, et on prend le temps de le faire. Hein. L'idée c'était pas de se précipiter, mais bien de faire en sorte que cette bascule soit puisse être définitive, hein, que ça se passe de bonne façon, que ce soit bien accepté. Et donc on a notamment accompagné ça d'une part de formation. Tous les agents qui basculent disposent d'une journée de formation sur les outils. Alors ça peut être un peu moins s'ils le souhaitent, mais voilà. Et puis par ailleurs, on a aussi mis en place un support, pour le dire simplement, je dirais une hotline, qui permet aux agents d'aller chercher de l'aide s'ils en ont besoin une fois qu'ils ont changé d'outil. Et autre élément important aussi dans la bascule, on a beaucoup travaillé à trouver par exemple les équivalents des macros Excel. Donc il y a des gens qui sont allés enquêter dans les services, dans les différents fichiers qui étaient utilisés par les agents, qu'est-ce qui pourrait être un point bloquant et quelle solution équivalente, quelle formule équivalente on peut trouver sur les nouveaux outils, là encore pour pas que les agents soient démunis une fois qu'on leur a changé d'outil.
D'accord, merci pour cet exposé très complet et qui en fait répond à une question un peu générale que je voulais vous poser ensuite, mais qui en fait vous avez répondu par des exemples très concrets. C'est en somme, et peut-être que Pierre voudra rebondir aussi pour nous dire à Grenoble s'il y a des projets ici en cours et quel choix vous avez fait, même si vous en avez déjà un peu parlé avant. Mais moi, la question que je voulais me poser et à laquelle je pense que vous avez déjà apporté énormément d'éléments de réponse, c'est... fondamentalement, dans une collectivité, comment on définit ses besoins et, le cas échéant, comment on décide de recourir à une solution informatique, parce que parfois, en fait, on peut aussi se passer d'informatique et cela nécessite la définition des besoins. Et je pense qu'en fait, ça, c'est essentiel, me semble-t-il, pour une collectivité, mais en fait pour tout le monde, mais pour une collectivité en particulier, puisqu'elle manie plus du denier public. Et puis, comment on décide d'intégrer, de prendre en compte le logiciel libre dans ce processus. Alors, la question est très très large. On peut parler de mutualisation, de questions de procuration, c'est-à-dire de marché public. Alors, est-ce qu'on va faire appel à un prestataire? Est-ce qu'on va prendre en charge en interne des compétences pour pouvoir maîtriser en interne les logiciels? C'est pas les mêmes choix. Il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Il y a du bon et du moins bon dans les deux cas. Voilà. Donc à Lyon, vous nous avez présenté tout un ensemble de logiciels et d'ailleurs énormément de références ont été partagées pendant notre échange. On listera comme d'habitude sur le site de l'émission. Voilà, vous avez parlé du Shift Project en début d'échange, vous avez nommé un certain nombre de logiciels, on les listera. Pierre, est-ce que vous voulez rebondir sur ce sujet de la définition des besoins et peut-être si vous voulez parler d'un projet logiciel, projet de SIEM d'information que vous êtes en train de mener?
Oui, alors effectivement, je l'abordais tout à l'heure, l'un des préalables, et vous avez raison, c'est de définir le besoin en tant que service public. Déjà, nous, on a affirmé à travers la délibération numérique sobre et responsable que j'ai fait adopter en septembre 24, donc, le principe systématique d'un double accès pour les citoyens. C'est-à-dire que l'une des façons de ne pas accroître la fracture numérique, les fractures numériques, en fait, il y en a plusieurs sortes, c'est de permettre aux citoyens qui sont le plus éloignés du numérique, d'avoir toujours un accès physique pour gérer leurs problèmes, leurs dossiers, leurs besoins. Donc ça, on l'a affirmé à l'occasion de notre délibération sur le numérique. On garde toujours un accès physique au service public. Dans tous les services de la ville, tous les citoyens qui le souhaitent peuvent avoir accès à un agent, un vrai humain et non pas un robot. Donc ça, c'est un préalable que je trouve important de rappeler. Après, on s'est aussi attelé à vendre nos outils numériques, parce qu'on en utilise beaucoup quand même, évidemment. On développe des services numériques de plus en plus importants, comme beaucoup de collectivités, pour faciliter les interfaces et les relations avec les citoyens et les usagers. Et pour ça, on fait très attention de développer à la fois des systèmes qui soient sobres en ressources, le plus sobres en ressources possible, et en même temps qui se mettent à la place du citoyen, de l'usager, avec une démarche qui intègre la question de l'accessibilité pour tous, évidemment. On essaye aussi de prendre en compte le langage FALC, facile à lire et à comprendre, pour que chacun puisse arriver à comprendre rapidement quand il arrive sur un site de la collectivité ou qu'il se branche avec son smartphone si besoin, comment est-ce qu'il peut utiliser les outils numériques qu'on met à disposition pour accéder à une information, déposer une requête, déposer une plainte, etc. Donc ça, cette démarche, elle est engagée depuis plusieurs années maintenant et elle commence à porter ses fruits puisque on observe par exemple une décroissance de plus en plus importante du nombre de plaintes ou de demandes qu'on reçoit par courrier papier. Ça devient effectivement beaucoup moins important, et même par l'outil classique du mail, les points de contact par mail qu'on a sur le site, etc. Et les gens reviennent, en fait, se connectent via un site internet ou une appli si besoin. Les applis, c'est pas encore assez développé, mais c'est le futur, évidemment, puisque chacun sait que maintenant, les gens utilisent beaucoup plus, surtout les jeunes, beaucoup plus les smartphones que les PC pour se connecter au numérique. Donc il faut qu'on accompagne cette bascule et qu'on soit capable de produire des services numériques qui soient à la hauteur de ce qu'attendent maintenant les usagers, qui comprennent mal que ils peuvent commander une pizza livrable dans des conditions sociales très discutables d'ailleurs, en trois clics, mais ils comprennent pas que quand ils ont besoin d'un service public local ou d'un accès à un service public national, puisque les collectivités locales sont aussi des opérateurs de l'État, par exemple pour la délivrance de cartes d'identité, etc., qu'ils aient pas la même simplicité. Alors c'est vrai que on n'a pas recours à une livraison de carte d'identité aussi souvent que à la restauration, évidemment.
Heureusement.
Et que par ailleurs ça nécessite de sécuriser tout ça. Mais en tout cas, le courant est là et il faut qu'on tienne compte de cette demande sociale. Après, effectivement, il y a des choix d'organisation de collectivité qui peuvent être différents. C'est ce que je disais tout à l'heure, du fait que nous avons un service numérique mutualisé avec la métropole, qui n'a pas tout à fait les mêmes orientations de nous en matière de logiciels libres, comme je le précisais, la métropole de Grenoble. Ça rend les choses plus compliquées, puisque la culture, entre guillemets, de ce service mutualisé est plus orientée vers le recours à des prestataires externes, des marchés publics qu'on passe en sous-traitance à des SS2I, etc., qui certes sont utiles parce qu'elles ont une compétence, c'est indéniable, mais pour moi, le modèle idéal n'est pas tout à fait celui-là. Si j'avais les mains entièrement libres, je préférerais embaucher en direct des informaticiens qui sont bien câblés et qui comprennent bien la priorité donnée au logiciel libre pour qu'ils aillent eux-mêmes produire du code à partir de ce qui est disponible dans la Bibliothèque mondiale des logiciels libres. Il y a beaucoup de choses, évidemment, pour adapter ces logiciels aux besoins de la collectivité, quitte à avoir recours, quand on a affaire à des gros logiciels, évidemment qu'il faut parfois recourir à des, y compris des sociétés privées qui travaillent sur le logiciel libre. Moi, j'ai pas de difficulté du tout avec ça. Ce qu'on est capable de faire, évidemment, et j'ai bien entendu ce que fait Lyon, ce que je trouve très intéressant. Mais il faut disposer d'une force de frappe interne capable de faire ces adaptations. Et ça, c'est un choix de structuration du service qui détermine en fait la façon dont après on va être capable d'avancer. Voilà, ça c'est un enjeu de débat, je dis ça pour les futurs élus des municipales 2026 à venir. Il faut y penser dès le début du mandat pour se donner une capacité, une force d'action bien supérieure, quitte à aller contre la logique néolibérale qu'on voit un peu partout, qui est de dire qu'il faut baisser les coûts de fonctionnement et les bases salariales des services publics. En fait, c'est contre-intuitif de dire ça quand on veut développer une action publique locale au plus près des citoyens. Il est parfois très utile de déployer au contraire des services publics renforcés et d'accepter de voir sa courbe de masse salariale un peu augmenter, parce que derrière, le rendement obtenu à l'euro d'impôt investi peut être bien supérieur.
C'est de l'investissement, en fait. On achète de la maîtrise, et on achète de la souveraineté, pour reprendre ce terme. Avant qu'on avance, parce que le Grenoble aussi a fait une annonce, et vous parliez voilà de votre lien aux habitants-habitantes, je ne sais pas si Bertrand, vous vouliez rebondir sur cette notion de définition et des besoins, et de comment vous intégrez le logiciel dans ce processus, ou si vous considérez que vous y avez déjà répondu
Peut-être juste des petits compléments, parce qu'à Lyon, nous sommes dans la même situation, on n'a pas de développeur en interne, donc on ne fabrique pas nos logiciels, on est obligé de les acheter, et donc pour cela, on est soumis aux règles de la commande publique, et donc on est supposé faire des cahiers des charges, et ensuite lancer des appels d'offres là-dessus. En réalité, souvent, on passe, comme d'autres collectivités, nos achats par des centrales d'achat qui permettent plus ou moins de contourner les appels d'offres, la grosse centrale d'achat publique s'appelle l'UGAP. Donc là, petit à petit, on pousse à ce que ces grosses centrales d'achat référencent des solutions qui soient conformes à nos exigences. Après, sur une particularité du logiciel libre, qui n'est pas forcément très connue, mais que je trouve intéressante pour la commande publique, qui permet aussi de garder une certaine maîtrise, c'est que dans le cadre du logiciel libre, on peut choisir son logiciel, sa solution libre, et mettre en concurrence des intégrateurs. Voilà, on met en concurrence les entreprises sur la façon dont elles vont mettre en place le logiciel que l'on aura choisi dans nos systèmes d'information.
Absolument, et je me permets de rappeler que c'est pas juste vous qui le dites, c'est le Conseil d'État qui l'a affirmé en 2011 dans un arrêt qui s'appelle Lili, et donc on peut choisir un logiciel libre de la manière qu'on va choisir une fourniture, et après on fait un appel d'offres sur le logiciel libre qu'on a choisi. Mais c'est bien le Conseil d'État qui a affirmé ce que vous venez de dire, et excusez-moi de vous avoir coupé.
Ouais, non, mais je pense que c'est effectivement important de le dire bien sûr, parce que on entend souvent comme opposition au logiciel libre le fait que quelque part on n'aurait pas le choix parce que les règles de la commande publique font que voilà, on est obligé de mettre en concurrence les logiciels libres avec les logiciels propriétaires. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et après, sur la façon de choisir un logiciel, c'est un peu le croisement de deux logiques. On va avoir le besoin métier. Voilà, les gens qui ont besoin d'exercer leur métier avec un logiciel et qui ont un certain nombre de besoins techniques qu'il faut croiser avec les exigences de notre stratégie numérique. Alors parfois on n'arrive pas à s'entendre complètement, mais donc effectivement de plus en plus nous on va exiger que les logiciels métiers qu'on va mettre en place soient effectivement compatibles avec les logiciels libres qu'on a choisis par ailleurs, la bureautique libre en e-office. On va s'intéresser à la localisation de l'hébergement du logiciel, on va s'assurer que y a pas des bases de données Oracle qui tournent derrière par exemple, on va s'assurer que ces logiciels soient conformes au RGAA, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Voilà. Et après, moi, ce que j'observe, c'est que si in fine on veut aussi un logiciel libre, quelque part il faut l'imposer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si on s'en remet à juste faire une étude de marché, étudier de façon équivalente les solutions libres ou non libres, bon, il est possible que les services s'orientent naturellement vers une solution qui ne soit pas le logiciel libre. Donc je pense que là-dessus, on n'a parfois pas d'autre choix que de l'imposer. Lorsque le marché le permet, effectivement, puisque parfois, sur des besoins spécifiques, il n'y a pas forcément de logiciels libres qui ont été développés sur tel ou tel besoin. Et voilà.
Oui, il faut une politique volontariste. Et c'est ce qu'on dit au niveau de l'État. Tant qu'il n'y aura pas une vraie stratégie politique, on ne pourra pas renverser, on va dire, les rapports de force qui sont quand même plutôt favorables à une certaine domination des big tech, des GAFAM, on peut les appeler un peu comme on veut. Je vois l'heure qui avance, alors même si on n'est pas en direct, on est en train de préenregistrer le 25 novembre, je sais que Pierre a une contrainte qui arrive, mais je voulais quand même vous permettre, Pierre, de parler du kit d'accès logiciel libre mis en place par Grenoble récemment. Je vais dire le site. Le Ville de Grenoble propose ce kit d'accès au logiciel libre pédagogique et facile à utiliser pour permettre à chacun et chacune d'échapper à l'emprise technique des GAFAM en utilisant des logiciels et services libres sans traçage, sans utilisation des données personnelles pour les ordinateurs comme pour les smartphones. En fait, ça fait écho à des choses que vous avez évoquées juste avant, mais je vous laisse nous présenter peut-être ce kit d'accès logiciel libre.
Oui, en fait, ça, c'est l'un des éléments du plan d'action que j'ai fait voter en septembre 2024, donc qui était de constater que quand on est un usager, un citoyen lambda, et qu'on cherche des solutions pour gérer son accès au numérique, ben, si on veut pas tomber, et je dois dire que là, on est tombé... Windows nous donne beaucoup de publicité, forcément, avec cette histoire d'obsolescence programmée du logiciel Windows 10 pour des ordinateurs qui ne sont pas tous extrêmement vieux. Ben, la démarche, en fait, elle était simple. C'est suite à des échanges avec les assos qui travaillent avec les associations qui travaillent sur le logiciel libre à Grenoble. Je me suis rendu compte qu'il y avait un travail intéressant qui était fait par le milieu local, mais que qui n'était pas forcément facile à trouver comme ressources, informations, etc. Et ce qui était un peu un paradoxe pour moi, puisque c'est quand même, quand on travaille sur ce sujet-là, c'est très important d'arriver à mailler mieux. Donc, à partir de cette réflexion, je me suis dit, bah tiens, il faudrait que on puisse leur donner un coup de main pour mettre en visibilité ce que le milieu local fait déjà. La communauté du libre très dynamique ici, mais comme dans beaucoup d'endroits. Hein. Et donc, en réfléchissant avec en particulier une agente de la ville qui est intéressée par le sujet, j'ai dit, bah, en tant que collectivité, ça me paraît légitime qu'on rende plus accessible à un maximum de citoyens et citoyennes de Grenoble les ressources locales en matière de logiciels libres, d'autant plus que bon, bah, à titre personnel, j'ai un PC qui doit avoir 13 ans maintenant et qui fonctionne très bien avec un logiciel libre, avec un système Linux, alors que il ramait terriblement avec la version de Windows que j'avais à l'époque. Je ne sais même plus quelle année c'était. Mais voilà, j'ai fait ce choix-là à titre personnel depuis longtemps. Je suis très satisfait et je me suis dit, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir éviter de payer des licences, éviter de devoir changer son matériel de façon imposée, alors que l'ordinateur fonctionne encore sur un plan physique. C'est une démarche vraiment toute pragmatique, on va dire, et quand on est écologiste, évidemment que la première des choses à faire, c'est d'éviter de devoir racheter du matériel dont on sait que l'empreinte numérique, l'empreinte carbone du numérique, en premier, c'est le matériel, hein. C'est pas tellement éteignez votre Wi-Fi la nuit, etc. Ok, ça c'est bien gentil, mais c'est pas ça. L'empreinte majeure du numérique, c'est le fait d'être obligé d'acheter, de racheter un PC alors que celui qu'on a semble bien marcher, à l'exception du logiciel obèse, entre guillemets, qui en gêne en fait le fonctionnement au bout d'un certain temps parce qu'il s'est conçu comme ça. Donc voilà, c'est parti de cette logique-là. Du coup, le guide qu'on a édité en version papier accessible uniquement pour des raisons de coût et d'économie, on le distribue dans les maisons des habitants qui sont sur Grenoble, comme ça existe dans beaucoup d'endroits. Dans chacun de nos secteurs géographiques de la ville, on a des maisons des habitants qui sont des micro-services publics locaux, des micro-mairies à disposition des habitants. Et en fait, on fait distribuer le guide papier. On a mis des affiches, etc. Et on fait distribuer le guide papier par nos médiateurs numériques, c'est-à-dire des agents formés qui sont là pour aider les citoyens et citoyennes à se débrouiller avec le numérique. On le met pas en libre distribution papier parce que c'est un guide qui comporte une vingtaine de pages et ça serait un peu du gâchis, sans doute. Et puis, il est en libre accès, évidemment, sur le site internet de la ville en version numérique. Voilà. Donc, les premiers retours qu'on a sont plutôt très positifs du côté du milieu associatif et des militants du livre locaux qui ont bien apprécié qu'on les mette plus en visibilité à travers cet outil-là. Et les médiateurs numériques, effectivement, nous disent que ça leur sert effectivement d'outils pour accrocher les usagers et les usagères et leur proposer de les aider à faire une bascule vers le monde du livre qui permet de, aux gens de continuer à avoir des actions numériques, mais souvent à moindre coût et avec des facilités d'accès, en fait, une fois qu'on a dépassé la phase initiale. Voilà.
Et question rapide, vous savez sous quelle licence est publié ce guide sur votre site? Sinon, je chercherai, je le mettrai en lien sur l'émission.
Non, je dois dire que j'ai pas ce niveau de détail, mais il est accessible directement. Vous tapez, vous allez sur le site de Grenoble, vous tapez logiciel libre et vous devriez voir, on a une barre de recherche qui est assez bien faite.
D'accord.
Et qui permet d'accéder.
On vous invite à explorer, on mettra le lien aussi sur le site. Merci beaucoup à Pierre Mélon. Moi, je veux juste souligner un aspect qui est très important pour nous et qui est, je trouve très intéressant cette démarche, c'est la notion d'accompagnement. Il ne suffit pas juste de lancer du logiciel libre aux usagers et aux usagères, il faut les accompagner, les aider à franchir la transition. C'est moins difficile qu'on ne le pense, mais c'est pas si simple non plus, et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ce lien humain pour être accompagné. Je crois que vous deviez partir. Si vous voulez rajouter un mot de la fin, je vous en prie, sinon je vous souhaite une très bonne suite de journée. Comme vous le souhaitez, Pierre.
Bah, le mot de la fin, ça peut être simplement de dire que, effectivement, vous l'avez cité au départ, il y a des rapports qui s'entassent au Sénat, à la Cour des comptes, etc. Quand on examine de façon rationnelle le monde du numérique, on s'aperçoit très vite que, en fait, toutes les administrations publiques devraient déjà avoir basculé, à l'exemple de la Gendarmerie nationale, par exemple, devrait déjà avoir basculé dans un monde du logiciel entièrement libre, parce que c'est une solution souveraine, c'est une solution qui est maintenant sûre, c'est une solution qui permet de tenir compte des besoins des usagers, et c'est une solution bien plus économe en deniers publics. Donc en fait, si on avait un gouvernement déterminé à agir vite et fort sur le sujet, ça serait simple, il suffirait de prendre une position pour dire et imposer à l'État d'abord, et subventionner les collectivités aussi pour ça, pour qu'on fasse cette bascule vers le logiciel libre de façon beaucoup plus ordonnancée, conjointe, commune, et on aurait une force d'impact bien supérieure. Je regrette qu'on n'en soit pas encore là, j'espère que ça va advenir, et je dois dire que les efforts que font les GAFAM pour se rendre absolument indispensables avec des prix croissants, vont peut-être nous aider à faire enfin cette bascule. Peut-être que la contrainte budgétaire va aider à franchir le pas. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour les années à venir, parce que vraiment, pour moi, il n'y a aucune bonne raison actuellement de rester sous l'emprise de logiciels propriétaires qui nous emprisonnent de plus en plus, comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est tout à fait le bon mot, dans des configurations qui nous rendent de moins en moins libres de nos choix, et qui nous pompe des ressources à la fois en termes d'argent public, mais aussi, et c'est une priorité pour nous, des ressources en carbone, en eau, etc., puisque l'un des aspects qu'on pourrait discuter aussi, c'est l'invasion de l'intelligence artificielle dans tout ce qu'on est amené à utiliser maintenant, qui est aussi un vrai problème. Alors, on se met à utiliser l'intelligence artificielle pour en substituer à n'importe quel moteur de recherche, qui est absolument stupide. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est une des évolutions dont il faudra discuter sans doute un jour. Merci en tout cas.
Merci à vous, et pour cette, je changerai pas une virgule à toute la synthèse que vous avez fait sur l'importance d'avancer avec résolution, avec détermination plutôt, vers le logiciel libre. Je vous souhaite une très bonne suite de journée. Merci encore d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous sur les politiques logiciels libres. Je rappelle, vous êtes Pierre Mériot, vous êtes élu au conseil municipal de Grenoble et vous avez notamment dans votre portefeuille, enfin dans votre mandat, le sujet de la stratégie numérique. Au revoir Pierre, et merci encore.
Au revoir, bonne journée.
Alors Bertrand, ben je vais pas vous garder encore des dizaines de minutes, mais j'aimerais quand même vous entendre, si vous en avez le temps, sur ce que fait Lyon aussi, parce que je sais que Lyon mène aussi des actions vis-à-vis des habitants et des habitantes. Alors je crois que vous avez soutenu dans le passé, je sais pas si c'est encore le cas, notamment les journées du logiciel libre, qui est un événement très important pour les communautés du logiciel libre, qui est un événement annuel organisé à Lyon. Voilà, comment vous intégrez l'importance de cette question du logiciel libre vis-à-vis, enfin de la démocratisation plutôt du logiciel libre vis-à-vis de votre population?
Pour être honnête, c'est un aspect qu'on n'a quand même pas beaucoup développé. Sous ce mandat, on s'est vraiment concentré sur les outils des agents. Je dirais un peu dans une logique de balayer devant notre porte, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avant d'aller prêcher la bonne parole à l'extérieur, il me semblait que c'était bien qu'on soit assez exemplaire. Donc effectivement, on soutient les journées du logiciel libre par le biais d'une subvention, hein, tout simplement, qu'on a mis en place sous ce mandat. Mais honnêtement, à ce stade, vis-à-vis de l'extérieur, ça se limite un peu à ça. On attaque aussi le sujet des écoles. Effectivement, comme l'a fait Grenoble par le passé, mais là, on lance tout juste l'expérimentation de la solution PrimeTux, donc qui est une distribution Linux, en fait, hein, mais adaptée à l'école primaire, notamment. Peut-être aussi le collège, mais en ce qui nous concerne, en tant que ville, ça concerne les écoles, avec toute une suite de logiciels libres éducatifs associés, qui est un projet, je crois, associatif, hein, à la base, développé par des enseignants passionnés d'éducation et de logiciels libres.
Il me semble bien, oui.
Voilà. Mais à ce stade, très honnêtement, en direction de la population, on n'en est pas du tout au stade où est Grenoble, par exemple, et son kit dont parlait Pierre. Je pense que c'est un sujet auquel il faudra effectivement s'attaquer par la suite. Je pense qu'en plus, le sujet, Pierre le disait un peu aussi, mais il est quand même assez porteur avec les augmentations de prix, avec l'obsolescence de Windows 10 qui oblige certains à passer à Windows 11, avec les dépenses associées, etc. Donc, voilà, l'actualité est porteuse, le sujet est peut-être mieux compris et appelé à être mieux compris. Moi, j'observe aussi quand même que, d'un point de vue politique, il y a quand même un certain caractère transpartisan. Je vois à l'Assemblée, hein, il y a des députés, je pense à Éric Botorel, Philippe Latombe, qui sont des députés qui doivent être Modem, Renaissance, qui portent aussi le sujet du logiciel libre, notamment dans les administrations et de la souveraineté numérique. Donc voilà, il y a un certain alignement des étoiles, un certain intérêt assez large sur le spectre politique qui doit permettre, je l'espère, hein, au logiciel libre de se développer dans les années à venir, et y compris sur le système d'exploitation. C'est la marche qu'on n'a pas encore franchie à part au stade de l'expérimentation, mais aujourd'hui, quand on parle passer sous Linux. Je pense qu'il y a quelques années, ça faisait peur à tout le monde. On imaginait des lignes de code, on imaginait des choses très geek, si je puis dire. J'ai tendance à penser que tout ça peut se démocratiser avec un peu de volonté politique.
Je vous rejoins entièrement. Je pense qu'il y a une grosse évolution depuis quelques années côté logiciel libre pour être plus accessible au grand public, justement. Et il y a notamment des systèmes d'exploitation qui sont pensés pour être facilement accessibles sans avoir besoin de compétences particulières. Je vais me permettre de faire une très courte autopromotion pour une des actions de l'April, mais qui fait écho à ce que vous avez dit sur la notion d'accompagnement. Avec justement la fin de Windows 10 et l'obligation de passer à Windows 11, qui peut mettre au rebut des ordinateurs par ailleurs complètement fonctionnels, il y a beaucoup d'initiatives locales, je suis sûr qu'il y en a à Lyon, d'associations qui font ce qu'on appelle des install parties, c'est-à-dire de l'aide à l'installation et puis à la prise en main après l'installation d'outils libres, et notamment de systèmes d'exploitation libre. Et l'April a lancé un projet qui s'appelle Adieu Windows, une opération Adieu Windows qui permet de recenser, de trouver ces événements pour se faire accompagner. On le répète, il faut se faire accompagner par un être humain, quelqu'un qui va pouvoir vous montrer, vous accompagner dans cette transition qui n'est pas si compliquée, mais qui n'est pas non plus complètement anodine. Et c'est la meilleure manière de réussir un petit peu cette transition. Est-ce que Bertrand, vous avez quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, un mot de la fin pour synthétiser l'ensemble des éléments que vous avez partagés, ou peut-être que vous avez fait le tour et que vous avez fini comme vous le souhaitiez? Je vous laisse me dire.
J'ai pas de mots de la fin qui me viennent, là, donc.
D'accord, mais je pense que votre propos précédent était assez conclusif, déjà, je pense. Vous avez vraiment rappelé des enjeux essentiels. Et je trouve intéressant aussi que vous avez la lucidité. Enfin, voilà. En fait, vous avez aussi redit ce que vous parliez de trajectoire. Et je trouve intéressant, voilà, de se dire, on fonctionne bien en interne avant aussi d'intégrer. Et c'est toujours bien aussi de se dire, voilà, chaque collectivité avance à son rythme. Elle a pas forcément les mêmes points de départ. Lyon et Grenoble n'en sont pas forcément au même point, mais vous avez la même trajectoire, la même volonté d'avancer. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Ça peut bien sûr pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, Bertrand Masbala, voilà, je rappelle que vous êtes élu au conseil municipal de Lyon. Vous avez dans votre mandat également le sujet de la stratégie numérique. Et je vous souhaite le meilleur de la réussite dans la poursuite de ces stratégies. Alors, sans être partisan, mais que ce soit vous ou une autre, parce qu'on sait qu'en 2026, il va y avoir une élection, mais je souhaite bien sûr de tout cœur que Lyon poursuive cette stratégie que vous avez posée et mis en œuvre. Et je vous souhaite une très bonne suite de journée. Merci beaucoup, Bertrand.
Merci à vous, bonne fin de journée également.
Au revoir.
Au revoir.
De retour en direct sur la radio Cause Commune, nous venons d'entendre les propos de Pierre Mériot et Bertrand Masse, respectivement élus numériques des communes de Grenoble et de Lyon. Vous pourrez retrouver toutes les références de l'émission de ce jour sur la page consacrée à l'émission libreavoue.org/262 ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez un podcast. Nous allons présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons l'interview de deux étudiants d'un master d'informatique dédié au logiciel libre. Avant cela, nous allons écouter un extrait de Down the Road par Code Eastbound. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible.
Coming back home again. You're not there, I see that now. And I hope that you're keeping warm and your sights are set on them beautiful goals.
Nous venons d'écouter un extrait de Down the Road par Code Eastbound, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, c'est CC BY-SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons à présent poursuivre avec l'interview de deux étudiants du master I2L pour ingénierie du logiciel libre à l'Université de Calais, l'ULCO, à une interview réalisée par Laurent Costi, vice-président de l'April.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous ne sommes pas en direct aujourd'hui. Nous accueillons deux étudiants, Johan et Hugo, du master I2L, qui vont vous expliquer ce qu'est l'acronyme I2L et puis le contenu de la formation qu'ils vivent cette année. Alors je vais passer la parole à Johan qui va nous expliquer dans quelle formation il est.
Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis en master I2L, donc I2L pour ingénierie du logiciel libre. C'est une formation en master qui se passe à l'ULCO, l'ULCO de Calais, donc l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et donc cette formation vise en fait à former des informaticiens, des développeurs, avec une coloration en fait open source, donc dans l'utilisation des différents logiciels ou outils de la formation. Et donc en fait, comme toute formation en master, vise aussi à nous permettre d'intégrer des solutions web, mobiles, multi-tiers, construire en fait des logiciels web. Aussi en fait avec des méthodes agiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les méthodes agiles s'inscrivent énormément dans l'environnement du libre.
Excuse-moi, Johan, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la méthode agile en quelques mots ?
Alors, la méthode agile, c'est une façon de gérer un projet, donc informatique, en avançant en fait par petites étapes et en s'adaptant souvent aux changements ou en collaborant étroitement avec le client.
Très bien, merci, je pense que c'est éclairant. Merci. Je vais vous laisser aussi vous présenter, en fait, expliquer comment on arrive dans un master comme celui-ci, donc vous raconter un petit peu votre parcours. Hugo, comment tu es arrivé en master I2L?
Alors bonjour tout le monde. Alors pour ma part, j'ai commencé par un bac technologique, donc sciences et techniques de l'ingénierie et du développement durable, donc à Calais, donc option système d'information et numérique. Ensuite, j'ai voulu voir autre chose et du coup j'ai fait une licence 1 en physique chimie. J'ai eu mon premier semestre mais pas le deuxième, et du coup après je me suis réorienté directement vers le BUT informatique, parcours A, donc c'est ce qui est développement, réalisation d'applications, plus du côté développement. Alors cette année j'ai failli me réorienter encore, mais finalement je décide quand même de faire mon master, et donc voilà, là actuellement je suis en master 1, ingénierie du logiciel libre aussi.
Première année, d'accord. Bon, et ça te plaît?
Ça va, pas tout, et ça dépend. Ça dépend, on peut pas tout aimer, mais...
On est sur écoute, hein, fais attention, peut-être que ton prof principal écoutera. Joël, c'est quoi ton parcours?
Alors, pour ma part, je fais un parcours, entre guillemets, assez particulier. Donc, j'ai commencé par un bac scientifique, donc option ISN, donc c'est l'ancien bac. Donc, l'option ISN, c'est informatique et sciences du numérique. Donc, c'était en Guadeloupe. Donc par la suite, rien à voir, j'ai commencé une première année en licence TAPS, aussi en Guadeloupe, mais ça ne m'a pas plu finalement, donc je me suis j'ai bifurqué, donc j'ai fait un virage à 90 degrés vers une licence en philosophie à Toulouse. Ouais. Mais ça ne m'a également pas spécialement plu, donc j'ai eu ma licence, mais du coup je me suis j'ai voulu retourner à mes premiers amours, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que après mon bac, en fait, j'hésitais justement entre STAPS et l'informatique. Et donc, je suis revenu, en fait, après un an de travail. Donc, je suis revenu à mes premiers amours en intégrant le BUT informatique à Calais. Donc, également le parcours A. Donc, j'étais dans la même promotion que Hugo. Et puis, j'ai intégré la première année de master I2L à Calais.
Extrêmement intéressant en tout cas. Merci. Alors je vais vous demander de parler, le temps file, hein, de parler de votre expérience du libre en tant qu'étudiant en informatique. Alors comment vous utilisiez le libre avant le master, maintenant, et puis comment vous le sentez dans le futur. Hugo ?
Alors avant, j'avais déjà utilisé personnellement des outils comme OpenOffice et LibreOffice, donc pour ce qui est rédaction de texte, diaporama, etc. J'avais déjà utilisé aussi Audacity, donc un logiciel de traitement audio. Aussi Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D. J'avais utilisé aussi GIMP, qui est un logiciel de traitement d'images, plus pour les cours, donc en BUT. Alors actuellement, après avoir suivi ce cours, on a lu une liste assez exhaustive de logiciels libres. Donc tout est bon à prendre. Par exemple, là, on utilise le pad de Chapril, du coup.
Je me permets de signaler du coup l'appel à don de l'April, hein, faut pas hésiter, voilà. Merci pour la parenthèse. Je t'en prie, vas-y, continue.
Et dans le futur, bah du coup, c'est bien parce que on a toujours des alternatives à un peu tous les logiciels qui existent. Donc on sait jamais, des fois, tout peut servir.
Merci. Joël ?
Alors pour ma part, par le passé, j'ai eu une expérience assez, enfin peu riche dans, comment dire, dans l'environnement du libre. C'est-à-dire que j'utilisais peut-être simplement LibreOffice, mais parce que c'était gratuit. Et je dirais que maintenant et dans le futur, alors maintenant j'utilise GIMP, donc un logiciel pour le dessin. Donc je l'utilise personnellement, je l'utilise pas dans le cadre d'un cours. C'est en fait, je l'utilise dans le, parce que ça me permet de dessiner, de modéliser des skins en fait sur un jeu que j'aime bien dans mon temps libre. J'ai aussi utilisé Blender dans le passé, alors ça c'était aussi dans le cadre d'un cours. Donc un cours de modélisation. Et en fait, au travers des cours que j'ai pu avoir en master, Je dirais que mon expérience va changer dans la mesure où c'est pas tant sur l'utilisation d'un nouveau logiciel, mais surtout sur l'impact qu'ont les logiciels non libres sur sur mes données personnelles, sur un ensemble de choses. C'est plutôt pour me protéger moi en fait que je pense repenser ma manière de consommer en fait des logiciels.
Voilà, très bien, merci. Bon, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont passées dans le cours quand même, on dirait. Merci. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Comment vous voyez l'avenir du logiciel libre, finalement, avec ce que vous avez déjà acquis au sein de la formation? Hugo, tu commences?
Alors, l'avenir du logiciel libre, je pense que c'est plus une question éthique pour les personnes. C'est vrai que une entreprise qui choisit un logiciel pour faire telle ou telle tâche, c'est primordial de penser à est-ce que je peux utiliser une alternative libre à un logiciel privatif, par exemple, pour tout ce qui est le données, informations sur les personnes. Il faut penser à ces choses-là, quoi.
Merci. Est-ce que Johan, tu veux...
Oui, je veux bien aussi en parler. Alors, pour ma part, je pense que le logiciel libre est sous-coté, si je puis me permettre. En fait, il y a énormément de choses que l'on peut trouver sur des logiciels propriétaires qu'on peut retrouver sur des logiciels libres. Et en fait, je pense que la seule, entre guillemets, contrainte, si on peut vraiment parler de contrainte, c'est simplement de chercher. Et je pense que le logiciel libre a un bel avenir devant lui, dans la mesure où, à un moment, les gens vont peut-être se poser les bonnes questions, de se dire, est-ce que je veux confier mes données en fait à des personnes qui vont les revendre?
Je ne vois pas forcément le lien entre le logiciel libre, les quatre libertés, hein, donc la liberté d'utiliser, la liberté de modifier, la liberté d'étudier et la liberté de redistribuer. Finalement, le lien n'est pas forcément évident pour l'auditeur ou l'auditrice entre ce que tu dis, c'est-à-dire la définition que je viens de donner et puis les données.
Je fais ce lien parce que souvent, en fait, à la différence du logiciel libre, justement, qui a cette... dont on peut aller vérifier le code source, on peut... le partager, le diffuser, etc. Le logiciel propriétaire, lui, installe tout un ensemble de trackers, de choses additionnelles qui viennent, en fait, en plus de la... viennent nous profiler, en fait, ce qu'on ne retrouve pas dans les logiciels libres.
Un logiciel privateur de liberté ne permet pas d'aller vérifier ce que fait vraiment le logiciel. D'accord, donc vous êtes plutôt tous les deux optimistes?
Oui, totalement, oui.
Oui, oui, oui.
Et le fait que la fac récemment, l'ULCO, soit passée dans l'univers Google alors qu'il y avait des initiatives libristes, ça ne vous inquiète pas, ça?
Je trouve ça un peu dommage. Et le fait d'avoir bifurqué sur cet environnement-là pour une question de prix, mais si c'est qu'une question de prix, je trouve ça assez dommage parce que on peut toujours creuser pour trouver des alternatives qui permettrait de protéger les étudiants, qui permettrait aussi de protéger les professeurs, etc., tout en utilisant en fait un système qui permette de gérer les mails, de gérer toutes sortes de choses, quoi.
C'est souvent des calculs court-termistes qui se révèlent dangereux à long terme, parce que finalement on s'enferme à nouveau dans un univers, et puis au fur et à mesure du temps, du coup les coûts augmentent, etc., etc. Ok, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie tous les deux. Merci d'avoir pris votre temps un samedi matin pour contribuer et puis partager un peu votre ressenti dans cette formation. On se dit au revoir et puis à très bientôt. Merci à tous les deux. Au revoir.
Merci. Au revoir.
À vous. Au revoir.
Et à nouveau de retour en direct sur Libre à vous sur la radio Cause Commune. Merci à Laurent Costi d'avoir organisé cet échange et un grand merci à Johan et Hugo d'avoir pris le temps d'y participer et de partager leur regard. Un exercice qui n'est pas facile et un retour précieux qui fait plaisir à entendre. Nous allons passer, nous approchons de la fin de l'émission, et nous allons terminer par quelques annonces. Alors l'April sera présente sur différents stands, dans différents événements. D'abord au premier samedi du Libre XXL, un événement grand public autour du logiciel libre, les samedis 6 et dimanche 7 décembre au Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris 19e. Et l'April sera également présente à un stand toujours à Paris, cette fois-ci au Salon Professionnel Open Source Experience, les 10 et 11 décembre 2025, également Paris 19e. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu le 5 décembre. Julie Chaumard, actuellement en régie et membre du conseil d'administration de l'April et chroniqueuse dans l'émission Bout de Casquette, et Frédéric Couchet, délégué général de l'April, participeront à cette soirée. La campagne de soutien de l'April suit son cours. Retrouvez demain, mercredi 3 décembre, une nouvelle Gazette du Lama Déchaîné où il sera notamment question de Libre à vous. Comme vous le savez peut-être, l'April a besoin de 30 000 euros pour finir sereinement l'année. Tout soutien financier, par adhésion ou par don, et tout relais de notre campagne nous sera d'une grande aide. Je vous invite comme d'habitude à consulter le site de l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, et notamment des endroits pour se faire aider à installer des systèmes libres dans le cadre de la campagne de Windows Bonjour le Libre. Notre émission se termine, et je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Camille Tillade, Bertrand Masse, Bertrand Mériot, Pierre Mériot, Hugo, Johan et Laurent Costi, aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Élodie Daniel Girondin, Languin, Julien Haussmann et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complet des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibault, Théocrite, Tuny, Bénévole à l'April et Frédéric Couchet. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 9 décembre à 15h30. Notre sujet principal sera un nouveau parcours libriste avec Charlène Ounsou-Guédé, coopératrice associée au 24e coopérative spécialisée dans le développement de logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 9 décembre, et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm. Toutes nos émissions en libre écoute, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Le monde en question avec Isabelle Cortian.
Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Errant. Bonjour François Errant.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, démographe, professeur au Collège de France, élu en 2017 à la chaire Migration et Société. Vous dirigez l'Institut Convergence Migration après avoir dirigé pendant une dizaine d'années l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Quelque temps après l'assassinat de Samuel Paty, cet automne, en 2020, vous avez, après les vacances de la Toussaint, rédigé.